La guerre en Ukraine, on y vient avec la grande déprime qui est en train de gagner les Russes après 9 mois de guerre. Pénurie d'antidépresseurs à Moscou. Vous connaissez peut-être le Zoloft, l'un des antidépresseurs les plus vendus en Russie, tellement vendu qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Les ventes de ces médicaments bondissent de 70% depuis le début de la guerre. Quand Moscou déprime, Camille Plaisant, Alexia Prunier.
Depuis le début du conflit en Ukraine, le quotidien de Vassilina est devenu morose. Pendant près de 2 mois, elle n'est pas sortie de chez elle, enfermée entre 4 murs. Vassilina ne comprend pas pourquoi Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine.
Je n'avais aucune force de faire quoi que ce soit. C'est comme si ma vie n'avait plus aucun sens.
Une vie chamboulée, sans perspective d'avenir. Aujourd'hui, cette jeune Russe âgée de 22 ans se rend fréquemment dans cette officine. C'est ici qu'elle récupère ses antidépresseurs.
Il s'est avéré que j'avais des troubles depuis longtemps, mais pendant ces mois, ça s'est vraiment aggravé et je suis sous traitement maintenant.
Vassilina n'est pas la seule à souffrir de ce mal-être. Beaucoup de Russes sont dans ce cas. Les dépenses pour les antidépresseurs ont bondi de 70% et de 56% pour les calmants au cours des 9 premiers mois de l'année, par rapport à la même période en 2021.
Je pense que c'est en grande partie dû à l'inquiétude de l'avenir et de ce que deviendra ce conflit. Beaucoup éprouvent une peur qui empêche la mise en place de projets, de penser à l'avenir.
Le désenchantement après 9 mois de guerre, mais pour beaucoup, l'espoir de retrouver un jour la vie d'avant.
Voilà, la grande déprime des Russes. Bonsoir Alexandre Melnik.
Merci. Bonsoir Maxime.
Avec nous, professeur de géopolitique à l'ICN Business School et ancien diplomate à Moscou. Ulysse Gosset est avec nous, le colonel Goya également, Elsa Vidal aussi. Paul Gogo est avec nous en direct de Moscou. Je viens à vous dans une seconde, Paul, pour parler de cette grande déprime, parce que vous êtes évidemment le plus proche géographiquement de cette déprime, vous allez nous raconter. Mais le Zoloft et cette, comment dire, cette addiction aux antidépresseurs du côté russe, vous ne découvrez pas ça ce soir, Elsa Vidal.
Non. Alors, en fait, dans une vie un peu précédente, quand j'étais travailleur humanitaire en Russie, ça faisait partie, effectivement, des questions qu'on examinait de près, parce qu'il y a un sous-diagnostic en Russie, un sous-recours aux antidépresseurs et une liste assez restreinte, en fait, de préparation de médicaments qui sont accessibles. Et le Zoloft est très prescrit par les psychiatres russes parce qu'il a la réputation d'avoir assez peu d'effets secondaires par rapport à d'autres médicaments de sa classe, sachant que la petite distinguo, c'est que il y avait déjà eu avant la guerre des problèmes d'approvisionnement avec ce médicament. Ce n'est pas la première fois. Il y en a régulièrement. Bon, c'est lié un peu aussi à la manière dont le marché est structuré, toutes les accréditations qu'il faut avoir, parfois aussi les passe-droits dont il faut s'acquitter. Mais on va en parler.
On va en parler notamment avec vous, Paul Gogo. Merci d'être avec nous, Paul, journaliste correspondant à Moscou. Est-ce que vous la voyez, cette grande déprime que l'on voyait dans le reportage à l'instant? Quels signes vous en voyez, vous?
Bien sûr. Ça m'arrive régulièrement d'entendre des gens, et il faut bien le noter, hein, des gens qu'ils soient pour ou contre la guerre, ça ne change presque rien, parce que ceux qui sont pour la guerre, qui ont eux des arguments disant que s'il y a la guerre, c'est de la faute aux Américains, et en fait regrettent aussi cette situation-là, que les gens soient pour ou contre la guerre, ça m'est arrivé d'entendre des témoignages de gens qui disaient « le soir, je pleure », où j'ai rendez-vous chez mon psychologue régulièrement depuis le début de la guerre. Encore hier soir, j'ai rencontré un couple dont la femme, elle m'a expliqué qu'elle avait rendez-vous régulièrement chez le psychologue depuis le début de la guerre et que maintenant, sa nouvelle angoisse, les angoisses évoluent avec l'actualité, que sa nouvelle angoisse, c'était, étonnamment, parce que c'est un discours qu'on entend peut-être un peu moins en Russie, qu'il y ait des négociations qui fonctionnent et que, en fait, cette situation, elle a comparé ça avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, que les négociations seraient une sorte de fin d'une Première Guerre mondiale et qu'en fait, ce ne serait que la naissance de la Seconde Guerre mondiale. En gros, que Vladimir Poutine utiliserait ce temps pour un prochain conflit. Donc, les angoisses sont diverses et variées, sont très nombreuses. On en entend vraiment beaucoup parler ici. J'ai aussi rencontré des gens récemment, un couple de quinquagénaires qui, eux, s'étaient arrêtés à une rumeur qu'on entend aussi beaucoup en Russie depuis quelques temps. Alors, c'est le côté âme russe d'un chaman que Vladimir Poutine rencontrerait des fois. C'est de l'ordre de la rumeur, je le précise bien. Ouais. Et ce chaman aurait dit que la fin de la guerre serait pour bientôt. Alors, on s'attache à tout et peut-être un peu à n'importe quoi des fois, mais effectivement, le manque de perspective, c'est le plus gros problème dans cette situation.
Alexandre Melnik, on a beaucoup dit au tout début de la guerre que beaucoup de Russes ne voulaient pas voir, ne voulaient pas savoir ce qui se passait en Ukraine, voulaient rester dans leur vie quotidienne et ne pas savoir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. La guerre, elle est en train de leur rattraper, de les rattraper et de peser aussi sur leur mental, visiblement.
Ben, c'est-à-dire, les réalités finissent toujours par rattraper les gens. Même s'ils se trouvent au début dans un déni de réalité, ils rejettent ce qui se passe, ils ne veulent pas voir, etc. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté, interdépendant, le monde qui se vend géré par l'instantanéité du clic. Eh bien, dans ce monde-là, les réalités s'imposent, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances. Et après, pour les Russes, ce qui est très important, quand on connaît l'histoire de la Russie, la mentalité russe, la notion de sens de la vie qui traverse pratiquement toute l'histoire de la Russie. Et le pire ennemi de la Russie, c'est le manque de sens. C'est-à-dire alors que les Russes ne comprennent plus pourquoi ils vivent, pourquoi ils font cette guerre, au nom de quoi. C'est-à-dire c'est la perte de repères, de tous les repères existentiels. Et donc, je pense que cette perte de repères existentiels peut constituer à terme le pire ennemi du régime de Poutine. Parce que les Russes aujourd'hui ne comprennent plus rien du tout ce qui se passe. Et évidemment, ça crée ce sentiment de dépression, ce sentiment de désespoir, absence de perspective, absence de sens.
Ce que disent Elsa Vidal, les personnes qui étaient interrogées, notamment dans le reportage que l'on voyait, mais l'AFP aussi a travaillé sur le sujet aujourd'hui, c'était de dire que d'abord, la mobilisation décrétée par Poutine avait encore renforcé cette angoisse.
Il y a eu un pic,
évidemment. Et deuxièmement, à tel point que l'une des personnes qui témoignait là disait, mais mes voisins, dans le sous-sol de notre immeuble, se sont mis à construire un peu de manière artisanale, un abri anti-aérien.
Oui, je pense que alors nombre de gens qui expriment, disons, leurs inquiétudes de manière sous la forme d'une maladie psychique révèlent en réalité très souvent les tensions latentes dans une société. Et en l'occurrence, la jeune femme qu'on avait vue dans ce reportage est très lucide sur sa situation. Elle dit bien que elle ne voit plus le sens de ce qui se passe. Et la maladie, c'est le moment où la personne n'arrive pas à dépasser cette contradiction tant qu'elle ne trouve pas un comportement adapté, elle est dans ce moment de maladie. Et ça peut paraître délirant, mais en même temps, c'est un comportement adapté que de construire un abri quand on pense que la guerre est inéluctable. C'est simplement que ces gens sont mis dans une position intenable. Ils sont sommés dans la société dans laquelle ils vivent d'adhérer à un projet, tout en sentant que ce projet menace tout ce qu'ils avaient pu anticiper pour leur vie, que ce soit la poursuite de leurs études, leur départ à l'étranger, leur sécurité physique et leurs besoins les plus élémentaires sont mis en péril. Donc c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal dans cette situation, c'est au contraire d'être adapté et de ne pas en souffrir. En fait, c'est un signe de bonne santé que de souffrir de cette contradiction.
Ulysse.
Au fond, les Russes ne comprennent pas cette guerre qu'on leur a imposée. C'est une vraie tragédie pour les Russes parce que même si Poutine a essayé de leur faire croire qu'il se battait contre des nazis, entre guillemets, la réalité, c'est qu'il leur disait aussi que l'Ukraine, c'était leur patrie et que les Ukrainiens étaient leurs frères. Et donc, on leur explique qu'il faut se battre contre leurs frères. Alors, leurs frères nazis, entre guillemets, mais la réalité, c'est qu'on se bat contre des familles. Et donc, on essaye de expliquer cela, mais personne ne comprend. Et donc, c'est normal que les Russes se réfugient dans les tranquillisants. Au passage, la France est aussi un grand pays qui utilise.
Absolument.
Et un pays où il n'y a pas de guerre. Mais je reviens à la Russie. Donc, les Russes ne comprennent pas la guerre qu'on veut leur faire mener. Et plus ils voient les défaites et plus ils voient les corps et plus ils voient la télévision qui a du mal à leur expliquer ce qui se passe.
Et on va voir ça dans un instant avec
plus
des séquences aussi étonnantes.
Ils sont dans un état presque schizophrénique en réalité. Alors, Poutine a essayé d'abord de faire avaler l'idée que c'était une guerre contre les nazis, mais ce qu'il faudrait pour que les Russes fassent la guerre et adhèrent au combat, c'est que ça soit une guerre contre l'Amérique, une guerre contre l'OTAN. Et il a essayé cette propagande-là, mais qui n'a pas vraiment pris. Mais par contre, on voit bien l'idée de Poutine d'essayer d'engager d'autres pays que l'Ukraine pour en faire justement un conflit international. C'est le piège dans lequel l'Europe ou l'Amérique ne veut pas tomber. Mais au fond, la réaction des Russes, elle est tout à fait normale.
Je vous donne la parole à Alexandre dans une seconde. Simplement, Paul, sur le témoignage qu'on avait tout à l'heure de cette Russe qui disait « Mes voisins ont commencé à construire un abri anti-aérien dans le sous-sol de notre immeuble. » Est-ce que cette peur-là que la guerre rattrape les Russes, mais jusqu'à Moscou, physiquement, est-ce que cette peur-là, elle existe ?
Oui, totalement. D'autant plus depuis ces débats qui étaient particulièrement présents à un moment d'un éventuel usage de bombes nucléaires. Et puis, suite à l'attentat qui avait mené à la mort d'Ougina, de la femme, la fille, pardon, du philosophe Dugin, qui avait en gros prouvé à tout le monde que la guerre pouvait bien arriver jusqu'ici. Certains aussi se demandent jusqu'où le Kremlin est prêt à aller. Hein. Pour être honnête, il y a des gens ici qui se demandent à quel point un risque d'attentat peut être éventuellement possible à Moscou, qui serait une façon peut-être de regrouper, un peu resserrer les rangs, de montrer que le pays est attaqué et qu'il faut que tout le monde se batte avec Vladimir Poutine. Il y a une vraie peur là-dessus, et puis il y a des vrais ordres donnés aux administrations régionales de vérifier les souterrains qui sont sous les écoles, sous les hôpitaux, sous les bâtiments publics. Donc il y a vraiment cette atmosphère en ce moment en Russie.
Oui, Alexandre Melnik.
Et peut-être le pire, parce que l'avenir de chaque pays, c'est sa jeunesse. Donc ce sont les nouvelles générations, les jeunes générations à qui appartient l'avenir, parmi lesquelles il y a par exemple mes étudiants. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, les forces vives de cette nation, ne croient plus à l'avenir de leur propre pays. Et c'est pour ça qu'ils quittent la Russie aujourd'hui en masse. Bon, on peut regretter ça, peut-être ils auraient pu être plus utiles restant dans leur pays et étant le moteur de cette révolte qui n'arrive pas, donc parce que leur départ favorise ce qu'on peut appeler la servitude volontaire, pour reprendre l'expression d'Étienne de la Boétie, donc, et le fatalisme russe aussi. Mais il faut réveiller la Russie. Il faut réveiller la Russie, il faut sortir la Russie de cette léthargie, de ce fatalisme, de cette absence de foi, de croyance en possibilité de changer les choses. Et comment ça pourrait venir, justement? Donc ça, c'est un vrai sujet.
Et puisque on parle de cette dépression, de cette absence de sens, on en a un exemple éclatant avec ce qui s'est dit ces dernières heures à la télévision russe, avec Andrei Norkin, qui est un journaliste qu'on ne vous a pas forcément beaucoup montré ici, mais qui est un journaliste important, journaliste de télévision, la télévision d'État russe. Vous allez voir, après le recul de Kherson, annoncé par l'armée russe, annoncé par le ministre de la Défense, eh bien Norkin le dit comme ça. Il ne sait plus quoi dire et quoi expliquer à ses téléspectateurs. Regardez.
Si je soutiens la décision du ministère de la Défense et si je dis qu'il agit correctement en quittant Kherson, alors j'appelle publiquement à la violation de l'intégrité territoriale de la Russie. Dans ce cas, j'ai spécialement vérifié ce matin, j'encours plusieurs années de prison. Et si à l'inverse, je ne soutiens pas cette décision et pense que le ministre de la Défense a pris la mauvaise décision en quittant Kherson, alors je discrédite publiquement les forces armées et j'ai approximativement la même peine de prison. Je ne veux pas aller en prison.
Je vois que ça vous fait sourire, colonel Goya. Je résume ce que dit Norkin. Si je soutiens le départ de Kherson, c'est mal parce que je soutiens une amputation du territoire russe. Oui. Et si je critique le départ de Kherson, je critique l'armée. Donc, qu'est-ce que je fais?
Oui, oui, bien sûr, c'est une contradiction. Ça fait partie de nombreuses contradictions qui ont été imposées et qui accentuent le sentiment, le stress, tout simplement. Le stress de cette société. Au départ, rappelez, Vladimir Poutine avait justement essayé, et c'était un phénomène assez étonnant, assez unique, de préserver la société de la guerre, société russe de la guerre. C'était le premier cas où on avait une guerre, un conflit majeur entre États européens où on ne mobilise pas la nation. Bon, on dit non, voilà, ce sera que...
Ça ne vous concerne pas.
Ça ne vous concerne pas, c'est juste les armées de volontaires, de professionnels qui feront la guerre comme si c'était une guerre lointaine et vous n'êtes pas concernés. Donc la société est tenue à l'écart. Alors c'était sans doute pas pour rien, c'est qu'il y avait le sentiment que c'était une société qui peut être fragile, mais même toutes les guerres précédentes que Vladimir Poutine a menées sont des guerres où on maintenait cette, malgré autant que possible, sa société à l'écart. C'est la raison pour laquelle on utilisait par exemple des mercenaires Wagner pour aller faire le sale boulot et pour subir les pertes en Syrie ou ailleurs. Et donc là, d'un seul coup, il a ouvert la boîte de Pandore et il a introduit un stress incroyable dans cette société, stress qui ne peut pas s'exprimer par l'action.
Oui. évidemment.
Pendant la guerre au Vietnam, la société américaine, ça m'y a
fait. Ça mobilisait, ça manifestait, etc. Ça râlait, là, c'est pas possible. Cette soupape-là n'existe pas.
Donc le stress augmente encore plus et il traduit de diverses façons.
Elsa Puyulis.
Alors, moi, je rebondis complètement sur ce que vous dites. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut entendre dans ce qui est dit à la télé par le journaliste, c'est une injonction contradictoire, en fait, ce qu'il décrit, une injonction contradictoire où il n'y a pas de bonne solution. Et donc, en général, comme vous le dites, ça fait monter le niveau de stress et c'est typiquement une très bonne recette pour la folie. Mais ce qu'il fait aussi un peu plus tard, en fait, dans son développement, c'est qu'il va résoudre cette contradiction dans un exercice de matérialisme dialectique et il va, en fait, faire véritablement avancer le téléspectateur vers la solution.
Et la solution, c'est quoi ?
C'est d'accepter qu'il y a une décision technique, militaire, qui n'est pas prise par le politique, à laquelle il faut se résoudre pour le moment. Mmh. Donc c'est aussi un moyen à la fois de paraître sincère tout en manipulant. On commence par un constat qui est partagé par tout le monde, puis on vous emmène vers la solution qui a été choisie par le pouvoir. Ce qu'il dit là, et ce que font à la télé la plupart des propagandistes en ce moment...
Et on en verra un autre dans un instant.
Voilà, c'est quelque chose qui leur a été transmis, c'est une liste d'instructions qui leur a été transmise par l'administration présidentielle, avec des éléments de langage, comme les conseillers de communication le font, pour éviter justement que la population ne perçoive trop de contradictions. Donc admettre une certaine contradiction, puis la résoudre. Et enfin, oui, cette mobilisation, elle est absolument intenable pour les Russes, pour la raison que vous avez évoquée, Ulysse, c'est que, en fait, les Russes, étant donné qu'on leur parle d'un peuple frère, sont sommés d'accepter de s'attaquer eux-mêmes. Et en russe, on parle aussi de cannibalisme. On décrit ce pouvoir comme un pouvoir qui est anthropophage. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça choque profondément le sens moral des Russes. Parce qu'à la surprise de peut-être d'aucun, les Russes ont un sens moral.
Je dirais qu'inconsciemment, le journaliste était une sorte de Raymond DeVos russe.
Il y a un peu de ça, oui.
Qui fait, en fait, sans le vouloir, la critique de l'absurde de cette guerre qui est une folie. Une folie qui veut effectivement que deux peuples frères soient amenés à se combattre sans le vouloir. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début de la guerre, tous ces soldats russes qui partaient vers le front, ils pensaient qu'ils allaient en manœuvre. Et moi, je me souviendrai toujours de cette anecdote tragique où un jeune soldat dit à son officier « Mais je vois le panneau de Tchernobyl, on s'est trompé de route. Tais-toi et avance, tais-toi et nage, et tais-toi et meurs. » Et donc, ce journaliste-là, il est totalement désemparé. Est-ce qu'il a conscience de l'absurdité de cette guerre ? Certainement, c'est la raison pour laquelle, de façon subliminale, il dit à ses téléspectateurs « On nous entraîne dans une folie absurde et il ne sait pas comment en sortir. » C'est totalement schizophrène, mais ça reflète très certainement la pensée d'une bonne partie de l'opinion publique, sauf qu'il y a quand même autour de Vladimir Poutine une majorité de Russes qui le soutiennent encore aujourd'hui, une génération post-soviétique qui soutiennent leur leader Homo Sovieticus, qui se croit encore dans ce temps de l'URSS, puisque Poutine, rappelons-le toujours, on se demande pourquoi a-t-il fait cela ? Bien, c'est parce que lui, il réfléchit comme un soviétique, comme un ex-agent du KGB soviétique dont il est devenu le patron, puis le président. Donc, c'est cette logique soviétique, en fait, qui a envahi cette guerre et qui a replongé la Russie dans une époque passée.
La décision présentée comme la décision de l'armée russe et donc le retrait des troupes russes de la ville de Kherson, retrait qui a commencé... C'est ce qui est dit aujourd'hui. Les Ukrainiens confirment en tout cas qu'ils avancent encore. 12 localités reprises dans la région ces dernières heures. 7 kilomètres d'avancée pour les Ukrainiens ces dernières heures vers la ville de Kherson. Sauf que, on l'a compris, tout ça est un peu compliqué à expliquer aux téléspectateurs russes. Regardez comment Soloviev, lui aussi, essaie de résoudre la contradiction. Regardez.
C'était une décision difficile. Dans l'histoire de notre pays, il y a eu de nombreuses périodes douloureuses quand les dirigeants politiques ont pris le contrôle du processus militaire. Comme en 1941, quand Staline, et ce malgré les recommandations insistantes de Joukov, a rejeté l'option de retirer les troupes de Kiev et de ne pas défendre Kiev. Joukov a été viré. Un autre commandant a été nommé et finalement, cela a amené à l'encerclement de plus de 800 000 soldats soviétiques.
Alexandre Melnik, pourquoi convoquer Staline là maintenant ?
Tout simplement pour convoquer les ombres du passé, donc pour habiller cette défaite qui est absolument évidente en une sorte de péripétie militaire sur le terrain de bataille, et les ombres justement militaires, les vieilles lunes de l'histoire, notamment la propagande russe aujourd'hui compare Sourekine avec Kutuzov. Kutuzov, c'est celui qui, avec cette stratégie de la terre brûlée, avait contraint la grande armée de Napoléon à la retraite. Mais cette comparaison, Maxime, c'est un peu comme le Canada Dry. Peut-être vous vous souvenez de cette dans les années 80 par rapport
à
l'alcool.
Ça a la couleur.
Parce que Sourekine à Kutuzov, c'est un peu le Canada Dry à l'alcool. Parce que tout simplement, Kutuzov était à la tête de l'armée du Tsar qui était organisée, qui était disciplinée, qui était surtout déterminée à se battre pour sa patrie, à défendre sa patrie, alors que Sourekine, lui, ce n'est qu'un valet. Ce n'est qu'un valet du maître du Kremlin, de son maître, c'est-à-dire de Poutine, qui lui, Poutine, tout seul, avait déclenché cette folie meurtrière. Donc, Sourekine se trouve à la tête, par la volonté de son maître, à la tête d'une armée qui n'en est pas une pour moi. C'est un ramassis de va-nu-pieds. Donc, c'est-à-dire la comparaison, cette comparaison avec Kutuzov, il a le désir de la propagande russe de convoquer les ombres du passé comme Zhukov, comme Kutuzov, etc. À mon avis, cette tentative est complètement vaine.
Vous parlez de Poutine à l'instant, Paul Gogo. Poutine, on ne l'entend pas depuis cette décision de retrait. Ça n'est pas lui qui l'annonce, ça n'est pas lui. Il n'a pas réagi à ça. Poutine ne dit rien.
Non, comme d'habitude, comme pendant le Covid, par exemple, quand il y avait des mauvaises nouvelles, il y a toujours des paratonnerres. Pendant le Covid, c'était le Premier ministre, puis après les responsables des régions. Là, il y a eu les responsables des régions qui servaient aussi de paratonnerres quand la mobilisation a vécu quelques dysfonctionnements, pour dire ça comme ça. Et maintenant, ce sont les militaires qui doivent annoncer les choses. On a vu, soit dit en passant, le ministre de la Défense qui est réapparu. On voit assez peu. C'est lui qui a annoncé la chose. Sourovikine l'a justifié ensuite. Et d'un autre côté, je pense que les Russes se comprennent que si cette chose a lieu, c'est que pour une fois, Vladimir Poutine, que l'on a décrit un peu partout comme quelqu'un qui dirigeait tout depuis le Kremlin, qui était le seul à décider, ce qui est très certainement le cas d'ailleurs, aurait cette fois-ci accepté, en quelque sorte, d'écouter les militaires et de laisser les militaires agir avec un peu d'indépendance, ce que la propagande laisse entendre. Je ne dis pas que c'est réellement le cas, bien sûr.
Surtout, ne rien dire, Elsa Vidal.
Ah bah oui, il aurait beaucoup à perdre à s'exprimer en cette circonstance, d'autant qu'il est intéressant pour lui de laisser les événements se développer et d'ajuster sa communication en fonction de la tournure future de la guerre autour de Kherson. Parce qu'on ne sait pas, et c'est la grande inconnue, ce que les Ukrainiens vont faire face à cette annonce. Donc, il a beaucoup plus à gagner, à rester dans l'ambivalence. Mais dans ce qui a été dit, dans les messages qui ont été passés, je trouve qu'il y a quand même un tour de force assez incroyable, une tromperie extraordinaire, qui est la comparaison avec 1941. Alors, c'est vrai, c'est l'autre moment historique où il y a eu la mobilisation. En revanche, ce qui n'est pas vrai du tout, c'est que l'Union soviétique était attaquée en 1941. Là, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Donc, ça vaut le coup de se le rappeler quand même. Donc, c'est une chose intéressante. Et la deuxième chose, c'est que quand on écoute les justifications du retrait de Kherson, c'est pour préserver la vie des civils. Bon, ça, c'était il y a 3 semaines. Quand
et des soldats.
Et des soldats russes. Donc, il y a presque un élément humanitaire à cette préservation, alors qu'il s'agit d'une tactique qui a pour objectif de cacher une défaite militaire. Donc, du point de vue de la communication, c'est quand même assez subtil, trompeur. J'hésite. Perfide.
Mais on essaie de rebondir, on essaie de justifier ce qui est une défaite. Donc, c'est les ficelles assez classiques. Donc, oui, on épargne la vie, donc c'est un aspect humanitaire, la vie de la population, menacée notamment d'inondation par les Ukrainiens. Ça a été utilisé, cet argument de la menace de la destruction du barrage de Kakhovka par les Ukrainiens. On dit, attention, il y a de l'eau. Nous, on fait pas ça. Nous, face à ces affreux, nous préservons la population. En fait, nous, concrètement, nous la déportons. Et idem pour les soldats. Au moment même où le même Surovikine lance des bataillons entiers de mobilisés à l'assaut, se faire décimer, se faire hacher menu exactement au même moment. Donc oui, il y a cet habillage, il y a justification, et puis il y aura aussi des manœuvres de distraction, hein, c'est-à-dire qu'on va, pas au sens amusement, mais au sens de détournement de l'attention sur autre chose. Il faut peut-être s'attendre, par exemple, à des frappes nouvelles sur Kiev, en beaucoup plus grande importance. Il faut s'attendre peut-être à des accusations nouvelles qui vont sortir d'un chapeau, d'un truc abominable qui est préparé par les Ukrainiens, aidé par les Britanniques, etc. Donc, il faut habiller cette défaite et l'atténuer autant que possible.
Il ne faut pas oublier quand même qu'au-delà de la propagande et de la manœuvre politique évidente, il y a quand même une manœuvre militaire derrière ce retrait.
Absolument.
Et ça, il faut en tenir compte parce que les Russes pourraient peut-être nous surprendre. Est-ce que finalement, de façon assez habile, ils n'ont pas décidé de se retirer pour aller mieux repositionner leurs troupes ailleurs, sur un autre front, pour peut-être mieux protéger d'autres villes, Mariupol, etc.
C'est ce que dit Surovikine au passage. Il le dit dans le...
Et Surovikine en parle. Donc, c'est peut-être aussi, finalement, douloureux et tragique pour la Russie d'être obligée, finalement, d'abandonner une ville qui a été annexée il y a à peine quelques semaines, et qui était théoriquement partie prenante de la Fédération, mais en même temps, un retrait nécessaire qui ne veut pas dire qu'elle décidera du sort de la guerre. Donc, il faut rester quand même aussi dans cet esprit militaire qu'ils ont certainement, puisque on dit que Poutine avait refusé déjà 3 reprises d'évacuer personne, et que finalement, il a cédé aux militaires qui le lui demandaient. C'est un progrès, parce qu'on sait que Poutine se mêlait des affaires de la guerre depuis le début, et ça a été un fiasco. Donc là, il écoute des professionnels, si j'ose dire. Et est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que tactiquement, finalement, la solution est bonne? On le verra dans les semaines et les mois qui viennent.
Je vous redonne la parole, mais il y a une image que je voulais montrer. Parce que le contraste, il est saisissant entre ce dont on vient de parler côté russe et ce que veut montrer Volodymyr Zelensky. Encore une fois, là aussi, on est dans la communication, mais à l'opposé, Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire quasi flamboyant à la télévision américaine, sur CNN, avec Madame à ses côtés, et qui parle notamment de leur relation à eux deux. Regardez, c'est face à Christiane Amanpour, grande journaliste de CNN. Regardez ce que ça donne à la télévision américaine.
Quelle force tirez-vous l'un de l'autre?
C'est mon amour et c'est ma meilleure amie. C'est donc mon énergie. Je voulais répondre à votre question au tout début. Comme Olena vous l'a dit, elle prépare le petit déjeuner pour les enfants le matin, les habits. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas une telle possibilité. Donc personne ne me donne le petit déjeuner le matin. C'est une période tellement difficile.
On est en pleine guerre, Alexandre Melnik. Volodymyr Zelensky est à la tête d'un État qui est attaqué. Et il est sur CNN, tout sourire, en train de parler du petit déjeuner de ses enfants et de sa relation avec sa femme. Là aussi, le contraste avec ce dont on a parlé avant est quand même sidérant.
Le contraste est sidérant. Bon, c'est pas la première fois d'ailleurs, parce que Zelensky, il excelle dans l'art la communication adapté aux critères du monde moderne. Oui. Donc, il maîtrise parfaitement bien les ficelles de cet art de la communication. Mais à mon avis, ce que nous voyons, ça dépasse largement le cadre d'une opération de communication, parce qu'il s'agit d'une question de fond. Il faut jamais oublier que la guerre, en tant que telle, c'est toujours l'heure de vérité. Donc, ça nous ramène à l'essentiel de notre existence. Et qu'est-ce que nous constatons dans cette situation? Que d'un côté, c'est-à-dire côté ukrainien, il y a l'espoir, il y a l'amour, il y a une projection vers l'avenir, il y a quelque chose de positif.
Et c'est ça qu'on voit Zelensky ce soir.
Exactement. Et ça ouvre justement l'avenir. Alors que du côté de la Russie, et on l'a déjà dit, c'est la déprime, c'est la dépression, c'est-à-dire quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc il y a deux perceptions de la vie, et je dirais peut-être de la mort aussi, qui sont en train de s'affronter, de se confronter aujourd'hui à cette heure de vérité que chaque guerre constitue.
Et quand on parle d'amour, Élise Gosset veut réagir.
Moi, je réagis en disant qu'Alexandre Melnik est un poète tragique. Il est russe, au fond. Mais Zelensky, lui, c'est un communicant. Et il s'adresse à qui? Aux Américains. Juste au lendemain des élections, de mid-term, Joe Biden est sorti, je dirais, du piège qui était tendu par Donald Trump. Et il va pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine. Donc, il faut remobiliser l'opinion publique américaine qui souffre d'une certaine fatigue à l'égard de la guerre en Ukraine, parce que elle voit l'inflation qui augmente, elle voit les armes qui sortent du Pentagone pour aller en Europe et en Ukraine. Et donc, il faut la rassurer sur la bonne santé, je dirais, du couple présidentiel. Et évidemment, là, l'arme fatale, c'est Madame Zelensky, Madame Zelenska. Donc, c'est de la très bonne com'. Il y a déjà eu une com un peu similaire, c'était dans Vogue, avec des photos...
Ça s'était moins bien passé.
Voilà, qui était un peu trop glamour, et on avait vraiment le sentiment d'un décalage entre la réalité de la guerre et les pages glacées d'un magazine. Mais il est très fort dans le genre, et il va continuer. Il va s'adresser d'ailleurs aux Français, puisqu'il y aura une conférence sur l'aide à l'Ukraine qui aura lieu le 13 décembre à Paris.
J'ai cru que vous nous annonciez qu'il avait accepté notre invitation dans 22h max.
Écoutez, on verra. Mais en tout cas, il va continuer à s'adresser à tous les alliés de l'Ukraine pour poursuivre ce soutien qui est absolument indispensable à la victoire ukrainienne.
On va parler des opérations militaires dans un instant, de ce qui se passe sur le terrain, notamment de ce qui pourrait se passer en Crimée, parce que j'ai entendu des choses dans la bouche du colonel Goya qui m'ont un peu troublé. Ah bah oui, je vous écoute, colonel, dans la journée. Mais juste une chose, reste sur Volodymyr Zelensky et Paul Gogoa avec vous. Évidemment, j'imagine que ces images sur CNN du couple Zelensky, elles n'arriveront pas jusqu'à Moscou. Mais qu'est-ce qui arrive de Zelensky à Moscou? Que voient les Russes de Zelensky?
Tout ce qui peut le faire passer pour un clown, parce que pendant toutes ces années, depuis qu'il a été élu, Volodymyr Zelensky est qualifié de clown à la télévision russe. C'est une référence à son passé d'acteur, bien sûr, notamment de comédien. Et donc, tout ce qui peut permettre de décrédibiliser le président ukrainien, de prouver que ce n'est pas un vrai chef d'État, apparaît à l'écran, mais de manière générale, ou alors, d'ailleurs, plutôt quand il s'agit de décrire le président ukrainien comme quelqu'un de corrompu face aux Américains, face à l'Ouest. Mais c'est à peu près les seuls moments où on voit le président Zelensky. Et effectivement, la une de ce magazine dont vous venez de parler, dont j'ai oublié le nom, avait fait parler en Russie, ou même certaines critiques de la guerre avaient trouvé que c'était un peu trop et que c'était pas le moment de communiquer de cette façon-là.
Évidemment, on a parlé de cette grande déprime russe, j'y reviens parce qu'elle est sans doute pas terminée, parce qu'évidemment les Ukrainiens sont en train de reprendre Kherson, on l'a dit, ça va prendre du temps, prudence, opération risquée, d'accord. La suite, colonel Goya, il y a la Crimée derrière Kherson. Oui. Et je vous ai entendu tout à l'heure dire que, je ne sais pas dans quel délai, mais les Ukrainiens allaient pouvoir se retrouver en position de pouvoir tirer, leur artillerie tirer vers la Crimée. Est-ce que c'est possible, vous allez nous le dire. On a simplement ces images, ce soir, images satellites de ces tranchées creusées par les Russes en Crimée.
Oui.
Si les Russes creusent des tranchées en Crimée, c'est parce que les Russes craignent pour la Crimée, c'est parce que les Russes sont angoissés, fébriles de ce qui pourra arriver dans les mois qui viennent à la Crimée.
Oui, on creuse jamais des tranchées pour rien. C'est fatigant. Mais oui, c'est bien sûr. Ça veut dire qu'ils sont inquiets. Il y a des tranchées aussi, des travaux de fortifications de campagne aussi du côté de Mariupol. Mariupol est pour l'instant à 150 km des premières troupes ukrainiennes, donc elle est très loin de. Ça montre bien que voilà, les Russes anticipent, essaient de tout anticiper, y compris le pire pour eux, qui serait effectivement une percée. Donc ils anticipent peut-être effectivement une percée dans le sud du pays. Alors pas qui viendrait pas de Kherson. Déjà la bataille n'est pas terminée.
On
anticipe en Kherson. Il y a une phase extrêmement délicate qui est en train de se jouer, qui peut être d'ailleurs très importante et très meurtrière pour les Russes. Mais Kherson, après, les Ukrainiens vont se retrouver devant le fleuve Dniepr et c'est pas par là qu'ils vont pouvoir progresser. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, ils ont 14 brigades qui sont engagées. Il y a un quart à peu près des forces ukrainiennes qui sont engagées dans la bataille de Kherson. Bon, une fois que tout ça c'est terminé, ils n'ont plus besoin d'avoir 14 brigades. Ils laissent quelques brigades territoriaux et puis tout le reste, hop, ils peuvent le déplacer ailleurs. C'est également la manœuvre défensive du côté des Russes, à ce détail près que les Russes auront beaucoup moins de force à pouvoir déplacer ailleurs. En revanche, oui, ce qu'on attend un peu tous, enfin, les experts, on se pose quand même toujours la question, on se dit, tiens, pourquoi les Ukrainiens qui ont une supériorité de moyens, pour l'instant, du nombre, de la qualité, n'attaquent pas du côté au sud de Zaporizhzhia, en direction, par exemple, de Mélitopol. Et là, on serait au cœur de la zone occupée de la province de Zaporizhzhia, la zone occupée par les Russes. Et là, tout s'effondre et tout devient possible. Il devient possible de repousser, d'aller vers Mariupol, et là le symbole serait extraordinaire. Mmh. Il serait possible de couper, d'aller vers la centrale nucléaire de Zaporizhia, il serait possible de couper toutes les forces qui se trouvent actuellement devant Kherson, et surtout, il serait possible très rapidement d'aller vers la Crimée. Voilà, au passage, la Crimée, ce sera quand même aussi, même militairement, ce sera quand même un autre morceau, parce qu'elle est relativement facile à défendre.
Oui, relativement à défendre.
Vu l'évolution de la situation sur le terrain, à mon avis, il faut à un moment donné briser le tabou qui pèse sur la Crimée. Absolument. Parce qu'il faut toujours se rappeler les propos de Zelensky qui avait dit que la guerre avait commencé en Crimée en 2014 et la guerre se terminera aussi en Crimée. C'est-à-dire la question qui se pose et que le colonel Goya a posé à juste titre, l'après Kherson, qu'est-ce qui se passera après? Quelle est la finalité de cette guerre? À quel moment cette guerre, qui à mon avis déjà perdue par la aussi, par le régime de Poutine, à quel moment cette guerre pourrait se terminer? Et à mon avis, donc, la guerre peut se terminer et ouvrir justement la voie aux négociations dont on parle beaucoup ces derniers temps, à partir du moment où l'Ukraine va retrouver l'indépendance et le contrôle des territoires d'avant 1991 et pas 2014. Donc, briser le tabou sur la Crimée. Parce que la situation et la progression de l'armée russe, que personne ne pouvait prévoir d'ailleurs au départ, aujourd'hui, il est absolument évident. Ça devient une réalité des choses. Donc, il faut se projeter vers l'avenir.
Sauf qu'en s'attaquant à la Crimée, les Ukrainiens s'attaqueraient au symbole des symboles, à une ligne rouge sans doute pour Poutine. C'est notamment le sentiment de Douglas London. Douglas London, 34 ans passés à la CIA. Il raconte notamment que son boulot, c'était de tenter de retourner des agents russes à l'époque. Pauline Simonet, que l'on salue d'ailleurs ce soir, a pu parler à Douglas London. D'après lui, pour Poutine, s'il y a une limite à ne pas franchir, c'est la Crimée.
La décision de Poutine d'utiliser ou non l'arme nucléaire se basera sur les conséquences que cela engendrerait. Est-ce que cela l'aiderait ou est-ce que cela l'handicaperait? Quelles seront les possibilités de riposte? Poutine pourrait désirer utiliser l'arme nucléaire dans le but de garder son pouvoir, notamment s'il se sentait menacé. Par exemple, par des victoires de l'Occident en Ukraine, surtout dans le cas de figure où il perdrait la Crimée qui est si essentielle pour lui. Il pourrait envisager l'emploi de l'arme nucléaire. Pas tellement pour sa valeur militaire, mais plutôt pour renforcer sa position et surtout prouver sa puissance.
La Crimée, Elsa Vidal, c'est la ligne rouge.
Moi, je partage pas en fait cette analyse, même si j'entends tout à fait la partie politique qui dit que si Poutine se sentait acculé pour préserver son pouvoir et donc sa survie politique, il pourrait recourir à l'arme nucléaire. Mais le fait de faire de la Crimée une ligne rouge, c'est quelque chose qui ne me convainc pas pour des arguments assez simples, notamment le fait que quand la Crimée a été de facto transférée au sein de l'Union soviétique sous la dépendance de l'Ukraine plutôt que de la Russie, ça n'a créé aucun trouble et que les Russes, tout comme les Ukrainiens, ont vécu avec cet état de fait pendant des décennies, absolument. Donc ça a été créé de toutes pièces, en fait, comme produit politique, la Crimée comme gain nécessaire pour Vladimir Poutine.
C'est lui qui a créé ça.
C'est lui qui a créé ça, mais après on nous a dit, et on a été nombreux à le colporter, que la population criméenne était de rattachement, de cœur, plutôt russe. Mais en fait, ce qu'on a oublié dans cette situation, c'est de dire que, d'abord, ça a été un projet délibéré que de déplacer beaucoup de population, de déporter les Tatars qui vivaient en Crimée, d'envoyer beaucoup de Russes. Donc effectivement, au milieu des années 2000, les habitants de la Crimée se sentaient assez proches et en affinité avec la Russie, ça on ne peut pas le nier. Mais depuis que l'État ukrainien avait fait de nombreux efforts de développement d'infrastructures, de présence aussi dans ce territoire, on avait vu dans les sondages évoluer et de nombreux Criméens se sentaient proches désormais. Je pense, le dernier sondage que j'ai à l'esprit, je pense que c'est 2013, se sentait proche de l'État ukrainien. Donc c'est à voir. Moi je pense que même si on ne peut pas pour l'instant penser que militairement ce sera chose facile, dans le cadre d'un round de négociation, on pourrait tout à fait inclure la Crimée.
Paul Gogo, la Crimée, quelle place elle a dans le récit que font les officiels russes de la guerre ou de l'opération en cours en Ukraine?
C'est vrai que la Crimée avec Donetsk, c'est quand même une des rares victoires que le Kremlin a pu obtenir depuis 2014 et le début de cette guerre. Et effectivement, je ne serais pas capable de dire comment réagirait la population sur place, parce que Xavier Dal vient très bien de le préciser. Il y a des populations, on va dire, diverses désormais sur place. On sait aussi que certains de ces Russes qui étaient venus de toute la Russie pour s'y installer ont quitté la Crimée ces derniers temps en sentant la guerre arriver. Donc, on a assez peu d'idées, en fait, de qui est encore en Crimée en ce moment. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'opinion publique russe, il est clair que ce serait le symbole ultime qui montrerait que tout ça n'a servi à rien, que toutes ces années, depuis 2014, ça n'a mené à rien. Avec une zone de Donetsk et de Lugansk, des zones de Donetsk et Lugansk qui sont encerclées par l'armée ukrainienne et une Crimée menacée. Pourquoi faire? Et je pense que ce serait une question très dangereuse pour le pouvoir russe.
Alexandre Melnik.
Je pense que la Crimée, ça fait partie du narratif du régime de Poutine. Régime de Poutine qui ne supporterait pas la défaite militaire pendant cette guerre. Parce que la défaite militaire, c'est synonyme d'effondrement de ce régime-là. Et il s'agit aussi de tout simplement de faire respecter la loi internationale. Parce que d'après la loi internationale, et pas pour des raisons archaïques, historiques, culturelles, linguistiques, que je sache, la Crimée, ça fait partie de l'Ukraine. Donc, elle est très importante dans notre monde, qui est absolument incertain, de faire respecter la loi internationale. Parce que sinon, ce sera la jungle, ce sera la loi du plus fort. Donc, et en plus, je pense que, quand on fait le distinguo entre le régime de Poutine, qui n'est pas éternel, le régime, aucun régime politique n'est éternel, aucun personnage, aucune personne n'est éternelle, et la Russie. Donc, il faut savoir que la défaite militaire du régime de Poutine, c'est pas forcément la défaite de la Russie, parce que l'Ukraine peut servir d'exemple à la Russie de demain et aux jeunes générations russes à qui appartient l'avenir.
Le pic de la popularité de Vladimir Poutine a été atteint en 2014, après l'annexion de la Crimée. Là, c'était Poutine, super héros, super empereur, et il avait tout gagné. Il serait resté dans l'histoire comme Pierre le Grand. Il finira sans doute beaucoup moins haut dans la pyramide des tsars. Mais ça veut dire que pour lui, en fait, reculer sur la Crimée, c'est renoncer à tout. Donc, ça paraît impossible. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il finira par être obligé de négocier. Il y a un point important, très concret, c'est que lundi prochain, Joe Biden, le président américain, va rencontrer le président chinois Xi Jinping avant le G20. Où n'ira pas Vladimir Poutine? Que vont se dire l'Américain et le Chinois? Personne ne le sait pour l'instant, mais ils vont évidemment parler de la Crimée, de l'Ukraine et de la Russie, et de l'impact sur le reste du monde de cette guerre qui déstabilise tout un continent et une bonne partie du monde. En fait, il peut y avoir une entente, malgré la mésentente, entre Chinois et Américains, sur le dos de Poutine, pour lui dire il faut arrêter.
On arrête.
Et on a déjà vu un signal, lorsque le chancelier Scholz est allé à Pékin il y a quelques jours à peine, en solitaire, sans emmener avec lui Emmanuel Macron, qu'il souhaitait, eh bien, les Chinois lui ont dit « on ne veut pas d'un conflit nucléaire ». Ça, c'était très net. Ils n'ont pas, affiché une mésentente avec Poutine, mais il y a une ligne rouge, c'est le nucléaire. Ça va sans doute se reproduire avec Biden, et Poutine doit se demander s'il n'y aura pas, justement, une entente derrière son dos. Donc, on voit que la situation est très compliquée pour Poutine, non seulement à l'intérieur, mais que même si la Russie a aussi des alliés à l'extérieur, eh bien, il va falloir quand même gérer ça au plus près. Et si les Ukrainiens décidaient d'attaquer la Crimée, alors on serait dans une situation très difficile.
Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'on a deux chemins, je simplifie, on a deux chemins. Soit c'est la Crimée, la guerre, etc. Soit c'est des négociations.
La négociation.
Des pourparlers. Et on voit petit à petit les Américains, dans leur prise de parole, qui petit à petit font un peu plus pression chaque jour pour essayer d'aller peut-être vers ces pourparlers. Regardez ce que dit le plus haut gradé de l'armée américaine, Mark Milley. Voici ce qu'il dit. Il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire militaire n'est probablement pas réalisable par des moyens militaires. Il existe, dit-il, une fenêtre d'opportunité pour la négociation. Que le plus haut gradé américain dise ça maintenant, Elsa Vidal, c'est aussi pour mettre la pression là sur les Ukrainiens aussi.
Alors, la pression, elle a été mise sur les Ukrainiens et ils ont réagi, je pense, de manière tout à fait astucieux, c'est-à-dire qu'ils ont réitéré quelles étaient leurs attentes, les conditions pour la négociation, tout en ne mentionnant plus le cas de Vladimir Poutine, puisque Zelensky avait d'abord posé comme condition que Vladimir Poutine ne soit plus au pouvoir pour négocier. Là, dans les dernières déclarations, effectivement, suite aux pressions américaines, cet élément n'est plus mentionné. Donc, les Ukrainiens ont pu neutraliser le reproche implicite qui leur a été fait de ne pas vouloir négocier.
Mais ils disent qu'ils veulent le retrait russe d'abord.
Absolument. Absolument, mais je pense que voilà, ils font passer le message à l'establishment russe. Ce sera aux Russes de voir s'ils sont capables, par exemple, de venir avec un nouveau narratif, comme on dit aujourd'hui, pour expliquer que peut-être par sentiment humanitaire ou pour préserver des virus ou parce qu'il y a un gros malentendu au niveau international, on n'a pas compris quel était leur but dès le début et qu'ils ont quand même réussi à sauver les habitants du Donbass. Enfin, en tout cas, c'est à eux que revient la nécessité de formuler leur nouvel objectif. Mais cette fenêtre, elle est ouverte et elle permettrait sans doute à Vladimir Poutine de sauver ce qui peut l'être, tout en permettant aux Ukrainiens d'envisager la reprise totale du contrôle de leur territoire.
Alors la question elle est très simple, est-ce que vous aussi autour de cette table, vous voyez une fenêtre, Alexandre Melnyk?
Non, aucune. Absolument aucune. Tant que Poutine est au pouvoir, je ne vois aucune fenêtre de négociation avec ce régime Poutine. La défaite militaire allait jusqu'au bout. Le terrain militaire qui va décider du sort de la Russie, et à ce moment-là, il faut négocier. Négocier absolument tout, sans aucun tabou. Donc voilà. Mais pour le moment, je crois que les Américains...
Il faut mettre à genoux les Russes militairement avant de...
À mon avis, c'est ce que je disais dès le début de cette guerre, finalement. Donc je reste assez cohérent par rapport à mon message initial. Donc, et à mon avis, un président américain et ses proches ne devraient pas dire ça. Voilà, donc, pour paraphraser une célèbre phrase concernant François Hollande, parce que ce n'est pas le moment. C'est pas le Cairo, c'est pas l'opportunité. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est l'Ukraine qui gagne. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Et finalement, aidant l'Ukraine, nous aidons la Russie de demain. Donc, la défaite du régime de Poutine, c'est aussi le boulevard que nous ouvrons aujourd'hui à la Russie de demain. Et après, dernière chose, c'est quand même aux Ukrainiens de décider de leur propre sort. Donc, c'est pas aux Américains ou à quelqu'un d'autre.
Oui, mais quand les Américains mettent autant d'argent sur la table, attendez, Ulysse. Colonel, fenêtre ou pas?
Non, je ne crois pas, non. Pas pour l'instant. Les Ukrainiens n'ont pas encore assez gagné, les Russes n'ont pas encore assez perdu pour pouvoir imaginer quelque chose qui ressemble à une demande de grâce. La guerre, ça se termine soit par une destruction complète de l'autre, c'est devenu assez rare, soit éventuellement par un gel. Un gel de la guerre, hein, c'est-à-dire que les opérations s'arrêtent parce que les forces sont équilibrées et qu'on a une grande ligne comme ça qui ne bouge plus. Bon, et puis la guerre s'arrête de fait, un peu comme on a d'autres cas.
Région, on n'a que ça, même.
Oui, oui, bien sûr, il y a plein d'histoires de guerre gelée. Bon, et puis on voit plus tard pour la solution. Et puis la troisième hypothèse, c'est qu'il y a un des deux camps qui demande grâce, qui dit « Ok, voilà, moi j'arrête, je m'estime vaincu et j'arrête. » Mais pour l'instant, il y a de part et d'autre aucun élément qui puisse même entrevoir que l'un des deux puisse s'estimer complètement vaincu. On n'est pas encore là.
Quand on demande aux Ukrainiens « Est-ce qu'il faut négocier avec Poutine ?» ils répondent « Mais est-ce qu'il fallait négocier avec Hitler ?» Bon, la réponse, évidemment, est évidente. Quand les Américains disent aux Ukrainiens « il faut négocier », on comprend pourquoi. Ils ne veulent pas être accusés d'être des va-t-en-guerre et d'être les profiteurs de la guerre, c'est ce qu'on leur reproche déjà.
Donc, quand Millet dit ça, en fait, il ne le pense pas ?
Non, mais il est évident que pour l'Amérique, cette guerre est aussi un fardeau. Parce que le Pentagone, même s'il a des réserves extraordinaires de tanks, de missiles, etc., il y a un moment donné où on vide les arsenaux. On l'a vu pendant la campagne des midterms, les élections de mi-mandat, beaucoup de républicains disaient « pas de chèque en blanc » et surtout, on est en train de se défaire de nos propres ressources militaires. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est vrai que l'Amérique a une récession qui arrive. Elle a besoin d'avoir de l'argent pour la gérer. Donc les Américains, non seulement ils jouent les faiseurs de paix, si j'ose dire, et ils mettent les Ukrainiens comme les Russes devant leurs responsabilités. D'où l'importance du meeting Biden-Xi Jinping
en
Indonésie, qui aura lieu lundi. Ça va être vraiment, vraiment très important. Mais c'est vrai, le colonel a raison, c'est pas le moment. Et le problème et le risque, et ça c'est le risque majeur, c'est que cette guerre s'éternise et qu'on risque de se retrouver dans une situation, je dirais, à la coréenne, avec une ligne de démarcation. Le Donbass toujours au milieu, entre la Russie et l'Ukraine, et la Crimée peut-être, ou une situation à la chypriote, où le conflit dure depuis des années. C'est ça le danger aussi, c'est que, clairement, la guerre va durer pendant l'hiver, chacun se fortifie, le front est quasiment gelé. Une fois que les Russes auront quitté Kherson, comme ils disent, eh bien, à ce moment-là, on n'avancera pratiquement plus, sauf surprise d'une offensive ukrainienne. Et donc, la guerre va durer au moins pendant l'hiver. Ça nous amène en 2023, au printemps. Et là, ça pourrait durer combien de temps? Est-ce que effectivement, il y a des gens qui pensent déjà à une absence de cessez-le-feu et à une ligne de démarcation? Ça serait terrible, parce que l'Europe resterait en guerre, d'une certaine manière, pendant des mois, pour ne pas dire des années.
Bon, merci Ulysse, merci Alexandre Melnik, merci Elsa Vidal, merci oui. Colonel. Évidemment, on suivra évidemment tout ce qui va se passer la semaine prochaine du côté du G20 et d'éventuelles discussions, tractations qui pourraient arriver là-bas, même si on l'a dit, Poutine n'y sera pas en personne, Lavrov y sera, mais pas Poutine. Dans un instant, on va parler de ce mouvement qui est relancé sur les réseaux sociaux, Balance ton voleur, des commerçants qui dénoncent photos à l'appui, les voleurs dont ils ont été victimes. On voit ça dans un instant. À tout de suite.